Il est 17h30 en temps universel, 19h30 à Paris.
Le débat du jour. Diane Berger.
Il y a de quoi être sidéré par ce qui se passe aux États-Unis. En quelques semaines, le président Donald Trump a mis fin au Green New Deal. Il a fait sortir son pays de l'accord de Paris sur le climat, multiplié les coupes budgétaires dans la recherche, entravé l'action de nombreuses agences fédérales dédiées à l'environnement. Une série de reculs majeurs pour la lutte contre le changement climatique, alors même que les États-Unis sont parmi les plus gros pollueurs du monde. Est-ce possible de sauver la planète sans Washington? N'était-on pas déjà en retard? Et comment remobiliser dans ce contexte les autres acteurs impliqués? La bataille contre le réchauffement climatique est-elle en passe d'être perdue? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. C'est le débat du jour avec nos invités en plateau. Avec nous, Sébastien Treyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Vous êtes aussi président du comité scientifique et technique du Fonds français pour l'environnement mondial. Nous sommes également en ligne avec Christophe Clergeau, eurodéputé du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi, je le précise, membre de la Commission de l'environnement, du climat et de la sécurité alimentaire au Parlement et membre de la Commission de la santé publique. Et puis nous sommes aussi avec Simon Rosé du service environnement-climat de RFI. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Voilà, donc nous sommes ensemble pour réfléchir à cette question. Est-ce que la bataille contre le réchauffement climatique est en passe d'être perdue? Sébastien Treyer, pour commencer, est-ce que le reste du monde peut avancer sans les États-Unis dans la lutte contre le dérèglement climatique?
Alors en fait, quand il y a eu le premier mandat de Donald Trump, le monde a continué à avancer sans lui. Et c'était une vraie preuve de la résilience, du fait qu'il y avait, que les gens, les pays travaillaient sur leur action climatique pour leur propre bien et pas uniquement pour le bien commun planétaire. Et ça, je pense que c'est encore vrai pour un certain nombre d'entre eux. Hein. La Chine a un intérêt même très individuel, hein, à écouler des technologies bas carbone, de batteries électriques, d'énergie renouvelable. Et donc le monde va continuer à tourner vers une action de décarbonation des énergies, probablement pour des raisons économiques et malgré Trump. Maintenant, il faut voir quand même qu'un certain nombre de pays commençaient à dire qu'ils voulaient sortir de l'accord de Paris. Évidemment, l'Argentine de Milei. L'Indonésie aussi, qui était plus inquiétante, parce que c'est un pays qui était un des pays pivots entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. L'Indonésie, en fait, s'est vite ravisée en disant non, nous, on dit juste que ça va être compliqué et que donc, il faut quand même qu'on reparle un peu des conditions collectives de l'action. Et l'Argentine, je crois qu'elle a été rattrapée par l'accord entre l'Europe et le Mercosur, en disant, oh là là, si je sors de l'accord de Paris, mes produits ne vont plus être exportés en Europe. Et donc, on a quand même des ressorts de résistance qui font qu'il y a des choses très graves. On craint dans la recherche beaucoup pour les infrastructures de données qui sont gérées aux États-Unis et qui sont indispensables à tout le monde. Mais pour ce qui est de l'action climatique, il y a quand même beaucoup de chances que pas mal de pays continuent sur leur lancée.
Simon Rosé, je vous ai vu réagir.
Mais en effet, oui, il y a quand même cette petite musique qui monte. On pense par exemple au conservateur britannique qui commence à avoir le Royaume-Uni qui est un des moins mauvais élèves, si on peut dire, en termes d'action et d'avancée de sa transition énergétique. Les conservateurs britanniques commencent à remettre un peu ça en question. Après, il faut noter que les États-Unis, je vais y aller peut-être un peu fort, mais n'ont jamais été non plus un champion de l'action climatique. C'est le premier émetteur historique. Donc, c'est eux qui ont mis le plus de gaz à effet de serre dans le stock qui est au-dessus de nos têtes aujourd'hui. C'est le deuxième émetteur mondial. Et même sous le mandat de Joe Biden, où certes, il a lancé des mouvements forts d'investissement pour les énergies renouvelables, lors de la dernière année de son mandat, les émissions américaines ont quasiment stagné et n'ont presque pas diminué. Donc les États-Unis étaient un bailleur de fonds, mais en tout cas, leurs émissions propres, n'ont jamais vraiment fait le travail à la hauteur de leurs responsabilités historiques.
Et dans ce jeu diplomatique-là, par contre, la Chine, est-ce qu'elle peut jouer un rôle?
La Chine devient le nouvel éléphant dans la pièce. C'est le premier émetteur mondial aujourd'hui. C'est elle qui a le plus de leviers. Comme le disait Sébastien Treyer, elle a les technologies et inonde le monde de ses panneaux solaires. C'est elle qui a la main sur la transition énergétique mondiale aujourd'hui. Il y a des bons chiffres de Chine qui arrivent aujourd'hui pour la première fois en période de, disons, sans baisse de demande. Elle a émis moins de gaz à effet de serre au premier trimestre. Là, ça a été publié aujourd'hui, hors période Covid. Ça faisait quelques mois, années, qu'on se demandait si la Chine n'allait pas atteindre son pic d'émissions, justement, avant de commencer une décrue. Les objectifs officiels étaient 2030, on y arrive avant, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Donc la Chine joue son rôle.
Et alors je me tourne maintenant vers Christophe Clergeau, donc eurodéputé socialiste au Parlement européen. Est-ce que ces tensions qu'on le voit, on a mentionné le cas de la Chine, on a parlé du Royaume-Uni, comment est-ce que vous percevez les choses au Parlement européen? Est-ce qu'il y a une petite musique qui monte, une petite défiance ou au contraire une mobilisation?
D'abord, le plus inquiétant à court terme, c'est l'aspect scientifique, parce que tous les grands projets, les grands dispositifs d'observation des données, que ce soit dans les océans, sur Terre ou pour l'air, reposent sur des coopérations internationales qui dépendaient aussi de données aux États-Unis. Donc tout ça risque d'être cassé. Il faut reconstruire une communauté scientifique. Ensuite, je crois, moi, la mobilisation des citoyens. Les États-Unis n'étaient pas les meilleurs élèves, mais il y a toujours aux États-Unis des villes, des États qui sont mobilisés, comme cela a été dit, parce que la qualité de l'air, la lutte contre le changement climatique, ça a un impact direct local sur les populations et que beaucoup d'élus veulent protéger leur population. L'Europe, elle a toujours un rôle directeur à jouer, parce que les normes européennes, l'engagement européen a un effet d'entraînement sur le reste du monde. Ça a été rappelé avec l'exemple de l'Argentine. Et il faut retrouver le sens de la coopération à l'échelle internationale. Ce qui est presque le plus dangereux pour l'avenir du climat, c'est une guerre commerciale généralisée qui mettrait à bas toutes les coopérations. Non, on a besoin de multilatéralisme. On a besoin de coopération entre l'Europe et la Chine, entre l'Europe, l'Amérique du Sud ou l'Afrique, pour continuer à agir ensemble en se rappelant qu'un mandat présidentiel américain ne dure que 4 ans. Par contre, ce qu'il faut bien assumer et affronter, c'est qu'on prend du retard. On avait déjà du retard sur les objectifs des accords de Paris. On en prend plus et des pays et beaucoup de gens vont le payer cash dans le monde entier, dans leur santé et dans la qualité de leur vie, dans l'existence même de leur habitat. Et il y a une offensive idéologique qui n'est pas qu'aux États-Unis, qui est aussi au cœur de l'Europe, un climato-scepticisme, une négation des faits, une volonté de reprendre sa liberté, de ne pas assumer les transformations nécessaires pour affronter le changement climatique. Ça, c'est très dangereux parce que ce serait un sédatif puissant sur les populations. Si on convainc les populations que le changement climatique n'existe pas, c'est 30 ans de progrès collectif qui risquent d'être perdus. Donc, il y a une bataille dans les têtes et dans les cœurs, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, qui est absolument capitale.
Et il y a une bataille concernant le climato-scepticisme, mais sans aller jusque-là, il peut aussi y avoir des discours dans le contexte de la guerre commerciale que vous mentionniez, disant que justement, comme l'Union européenne en fait énormément, qu'elle est un bon élève, ce serait l'occasion d'un peu déréguler sur l'environnement. Est-ce que ça, c'est des discours que l'on entend au Parlement européen ?
Oui, la mode est à la dérégulation, à la simplification, comme dit Ursula von der Leyen. C'était déjà le cas avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Avec les socialistes, avec les écologistes, avec beaucoup d'autres, nous pensons l'inverse. C'est-à-dire que s'appuyer sur l'excellence environnementale de l'Europe, c'est d'abord œuvrer pour les Européens. Si on est autonome en énergie produite en Europe, on paiera moins cher demain notre énergie que si on importe du gaz russe ou américain. Mais c'est aussi avoir des normes environnementales sur lesquelles on peut s'appuyer pour protéger le marché européen et fermer le marché européen à des produits qui ne respectent pas les normes sociales et environnementale. Donc l'écologie, c'est un levier de puissance pour l'Europe, c'est un levier de pouvoir d'achat, c'est un levier de protection de la qualité de vie et de l'environnement, c'est aussi un levier de réindustrialisation pour construire l'avenir d'une industrie verte en Europe qui doit pouvoir être compétitive à l'échelle internationale et qui doit contribuer à imposer son modèle.
Sébastien Treyer, justement, est-ce que l'Europe aujourd'hui en fait assez ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus ? Qu'est-ce qui est souhaitable aussi pour éviter la catastrophe ?
Alors en fait, juste avant la COP30 au Brésil, enfin en novembre, le Brésil essaye de tirer, mais il aurait besoin d'avoir l'équivalent de ce qu'on avait avant chaque COP climat, qui était les États-Unis et la Chine qui disent « on y va ». Les États-Unis ne seront pas là. Et là, on est pour espérer que l'Europe et la Chine montrent la voie. Mais en fait, dans chacun des deux pays, il y a une espèce d'attentisme et on n'a pas le temps politique en interne de mettre sur la table une nouvelle politique climat à 2035 qui soit extrêmement convaincante. Et donc, l'Europe est un peu en retard et la Chine a beau jeu de jouer l'attentisme dans les signaux qu'elle envoie. Ce que Christophe Clargeot vient de dire est très important à mon avis, c'est-à-dire que on a en Europe maintenant une focale sur la compétitivité, sur la sécurité. En matière de sécurité, on peut vraiment défendre que la décarbonation de l'Europe qui ne dispose pas d'énergie fossile, c'est la meilleure manière d'assurer la sécurité européenne. En matière de compétitivité, le message principal d'un certain nombre d'acteurs économiques, et notamment l'industrie chimique qui avait commencé avec la déclaration d'Anvers avant les élections européennes, donc il y a probablement bientôt 2 ans, c'était de dire, en fait, le Green Deal, c'était bien, le pacte vert européen, c'était bien avec des objectifs et des régulations, mais il n'y a pas de moyens d'une vraie vraie politique industrielle derrière ça. Et le signal qui a été envoyé fin février par la boussole de compétitivité, le pacte industriel propre et la simplification en même temps, le signal, en fait, est assez brouillé pour moi. Ursula von der Leyen l'a redit, on ne transige pas, les objectifs de transformation à long terme de l'économie vers la décarbonation sont maintenus. Mais en même temps, on va prendre notre temps, on va simplifier. Et donc, il y a un vrai problème d'élan politique. Probablement que Mme von der Leyen n'a pas tous les moyens d'agir, que le Parti populaire européen joue aussi un jeu d'utiliser l'écologie pour essayer de montrer qu'il peut déréguler pour montrer sa force, pour gagner des victoires, c'est dans son programme, hein, le Parti populaire européen. Et ça, c'est assez dommageable. Nous, on entend pas mal d'entreprises européennes, et j'étais à Varsovie, à Prague, à Berlin, et on entend ça à Paris. Ceux qui ont investi dans la transition se sentent les dindons de la farce aujourd'hui, parce qu'en fait, on entend beaucoup plus ceux qui veulent déréguler. Et il y avait une étude qui est sortie avant-hier qui montre qu'en fait, dans la réalité des efforts de lobbying des entreprises, les entreprises qui sont pro-transition parce qu'elles ont déjà investi, en fait, sont beaucoup plus nombreuses que celles qui font du lobbying de résistance. Mmh. Et donc, il faut vraiment que, dans le système politique extrêmement complexe dans lequel on est aujourd'hui à Bruxelles, où on manque un peu d'un leader, du point de vue du Conseil européen, et on attend beaucoup de Merz, mais c'est pas sûr qu'il puisse le faire, le chancelier allemand, dans le système tel qu'il est, on a l'impression que c'est ceux qui sont en retard qui font la politique.
Simon Rosé, mais cette étude, justement, sur les entreprises européennes est très intéressante, puisqu'elle montre que déjà, une majorité aujourd'hui des entreprises européennes, 52% de tête dans cette étude, sont dans les clous, entre guillemets, mais surtout qu'elles sont très mal représentées par leurs associations professionnelles qui aujourd'hui, en fait, vont être plutôt en retrait sur ces enjeux-là, alors que la majorité des entreprises qui les composent sont plutôt allantes sur ce sujet. Et c'est pareil, ça va un peu également à la rebours de la petite musique qu'on entend sur ce populisme anti-écologique. Les opinions publiques sont majoritairement en faveur d'une action climatique forte. Hein. Il y a une étude qui a été menée assez récemment sur 40 000 personnes dans 20 pays. C'est 85% des personnes qui soutiennent qu'il faut une action climatique forte à l'échelle européenne.
20 pays en Europe ?
Oui, à l'échelle mondiale. Il y a une autre étude sur 130 000 personnes dans 125 pays, là c'est 90% des répondants dans le monde qui estiment que leur gouvernement devrait faire plus pour combattre le réchauffement climatique. Et c'est pas un discours qu'on entend aujourd'hui, au contraire, on entend plutôt qu'on est lassé, qu'on rentre dans le dur et que ça commence à devenir compliqué. Bah, les opinions publiques, ce n'est peut-être pas un critère décisif au moment du vote, mais en tout cas sont demandeuses d'actions fortes en ce sens.
Et alors justement sur le rôle de l'Europe, je crois que Christophe Clergeot, vous voulez réagir.
Oui, il faut rappeler que les objectifs de la transition énergétique écologique européenne n'ont pas été remis en cause. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs de production d'énergie renouvelable, les objectifs de protection de la biodiversité et des milieux naturels, les lois adoptées depuis 5 ans sont toujours là. Et les trajectoires sont toujours là et elles sont globalement respectées. Par contre, il y a beaucoup de polémiques sur des modalités d'application, des aspects symboliques, des détails sur lesquels se focalise la vie publique, et cette symbolique négative d'abandonner certaines dispositions précises est contre-productive par rapport à la volonté de mobiliser toutes les sociétés pour atteindre des objectifs très ambitieux. Mais on a eu un test qui a été très concret et qui a finalement été un test, où la résistance l'a emporté, c'était la question de la fin de la commercialisation de voitures thermiques neuves à partir de 2035, le PPE, une partie de l'extrême droite, quelques constructeurs automobiles ont voulu faire sauter cet objectif 2035, mais au final, nous l'avons maintenu, et nous l'avons maintenu avec le soutien de la majorité des constructeurs automobiles européens. Et donc, vous voyez, sur l'automobile, qui était un des éléments où la polémique était la plus forte, les verrous n'ont pas sauté. Par contre, sur l'agriculture, on est très en retard. Il n'y avait pas eu de grande loi de transition écologique de l'agriculture qui avait été adoptée avant les élections européennes. Et aujourd'hui, l'horizon est bouché, et alors qu'il y a un temps à faire pour que l'agriculture ou pour que les océans, on puisse renforcer leur contribution à la lutte contre le changement climatique, qu'on puisse restaurer les milieux naturels et concilier la production et l'écologie.
Et cela alors qu'il y a quand même une urgence à agir. On le sait, l'objectif de maintenir le dérèglement climatique sous le seuil des plus 1,5 degrés, c'est déjà extrêmement difficile. On va très vraisemblablement franchir ce seuil plusieurs années consécutives, et cela pour plusieurs décennies. Que se passerait-il si on renonçait encore plus, Sébastien Treyer ?
Ben justement, ce que vous venez de dire me fait dire qu'il y a des acteurs qui sont un certain nombre d'acteurs économiques qui sont particulièrement préoccupés par le ralentissement de l'action ou le risque de l'inaction. C'est le milieu de l'assurance et de la réassurance qui voit bien que un certain nombre d'États américains ou de collectivités locales américaines ne sont plus capables de s'assurer. Et c'était la même chose en France. On avait une réunion récemment entre le gouvernement, des collectivités locales, assureurs et réassureurs, pour dire comment on fait quand aujourd'hui les assurances privées ne sont plus capables de couvrir les aspects standards de la vie d'une collectivité locale, parce que le mécanisme de catastrophe naturelle où l'État intervient en dernier recours, si ça explose avec un État dont on connaît l'état des finances publiques, il y a là, à mon avis, un certain nombre d'acteurs économiques absolument centraux qui, eux, qu'on n'entend pas encore, mais qui vont très vite se faire entendre en disant là, il y a un problème pour notre société en général et puis pour notre business model en particulier.
Et puis là, on parle d'assureurs dans des pays développés, donc avec quand même beaucoup plus de ressources qu'une très grande partie du globe. On imagine bien dès lors que la crise dans les pays du Sud, là, c'est encore autre chose.
Effectivement, et c'est pour ça qu'un certain nombre il y a un mécanisme dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui s'intitule en français pour les pertes et préjudices, loss and damage en anglais, et qui vise à dire, même pour un pays relativement riche, d'une économie relativement riche comme le Pakistan, quand les catastrophes climatiques arrivent, ça met son économie à l'arrêt et il y a une incapacité du Pakistan tout seul à couvrir par un mécanisme équivalent de ce qu'on a en France comme les catastrophes naturelles, la capacité des acteurs les plus faibles dans l'économie de repartir. Et donc besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à l'échelle de la planète pour aider les pays qui sont dans cette situation, qui vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquemment.
Et puis il y a aussi une question qui se pose, c'est la responsabilité, parce que les pays qui ont pollué, ce sont les pays les plus développés. Simon Rosé, où en est-on là-dessus ?
Ce fonds pertes et préjudices est grandement sous-doté. Il devrait être idéalement à l'échelle du millier de milliards de dollars. Aujourd'hui, on n'est même pas à 1 milliard de dollars. Les États-Unis, j'y reviens, premier contributeur historique au réchauffement climatique, de loin, n'avaient mis que 25 millions de dollars dans la besace et encore les ont retirés avec l'arrivée de Donald Trump. Donc on est complètement pas au niveau, en tout cas en termes de finances internationales, au niveau de ce qui est attendu.
h 47 en temps universel, 19h47 à Paris. Vous écoutez le débat du jour sur RFI. Notre question ce soir, la bataille contre le réchauffement climatique est-elle en passe d'être perdue ? On est pour en parler avec Sébastien Treyer de l'IDRI, Simon Rosé, chef du service environnement climat de RFI, et en ligne avec l'eurodéputé socialiste français Christophe Clergeot. Christophe Clergeot, justement, est-ce que on l'a commencé à le mentionner, on a du retard, on est déjà dans un monde à vraisemblablement plus 1,5 degré. Est-ce qu'on peut se permettre encore plus de retard ? Qu'est-ce qui peut être fait ? Qu'est-ce qui peut être souhaitable, notamment, vous qui connaissez bien le Parlement européen, au niveau européen ?
L'Europe doit jouer un rôle international. Je fais le lien avec ce qui a été dit juste avant la petite pause. Si l'Europe est égoïste et ne finance pas massivement la transition écologique des pays du Sud, elle en sera la première victime, aussi bien parce que le climat continuera à se dégrader, aura un impact sur les Européens, que parce qu'on aura des désordres géopolitiques, des guerres, des mouvements de migration extrêmement puissants à nos propres frontières. Donc si l'Europe veut entraîner le monde, elle doit jouer un rôle majeur de financement des outils de solidarité internationale, que ce soit sur la question de la santé ou que ce soit sur la question du climat. Il faut aussi mettre en lumière les enjeux pour la santé du changement climatique déjà en cours, déjà réalisé ou qui arrive. Une étude vient de sortir, pilotée par des chercheurs européens, qui montre que la température est déjà un des facteurs explicatifs les plus importants des désordres de croissance des enfants en Europe. C'est déjà une réalité autant que les produits chimiques. L'augmentation des dernières décennies de la température a un impact sur le développement des enfants. Donc derrière les enjeux climatiques, c'est la santé qui est en jeu, c'est la capacité à se nourrir, c'est la capacité à avoir un développement harmonieux, c'est l'explosion des maladies chroniques qui arrivent. Et cette dimension de la santé et de la protection des gens doit être mise sur la table. On peut mesurer aujourd'hui les conséquences du climat. On ne doit pas mettre en lumière que les contraintes liées à la transition, mais aussi les risques croissants si on n'agit pas, le coût de la non-action. Et puis, moi, je me bats avec mes collègues, avec Thomas Pellerin-Carlin au Parlement européen pour qu'on soit vraiment capable d'un accompagnement social de la transition. Je reprends l'exemple du véhicule électrique qui est un enjeu capital. Si on ne donne pas les moyens aux catégories populaires d'accéder à la mobilité électrique, d'acheter un deux roues ou une voiture électrique avec un soutien des États et de l'Europe, les catégories populaires se révolteront et elles auront raison contre les contraintes de la transition écologique. La société du Green Deal, la société verte, ça doit être pour tout le monde, pas pour quelques-uns. L'adhésion des populations dépend aussi de cette dimension de redistribution et de solidarité.
Sébastien Treillard, vous vouliez réagir ?
En fait, j'aurais envie de réagir sur tout ce que vient de dire Christophe Clergeau, donc je vais essayer de me limiter à la...
On va essayer à quelques points.
Un premier point, non, mais tout est extrêmement juste en plus. Hein, mais le premier point, c'était cette idée que l'Europe ne doit pas agir de manière égoïste. Et on est quand même dans un moment où il y a une offensive à la fois très idéologique, mais aussi sur la solidarité internationale, enfin les flux financiers nord-sud publics, d'aide publique qu'on appelle l'aide publique au développement, qui sont maintenant renommés investissement solidaire de développement en France. Il me semble que là-dessus, il y a à la fois un argument moral et un argument stratégique pour l'Europe. Au moment où un certain nombre de pays africains sont en train de créer les conditions de leur propre industrialisation, il faut qu'elle soit verte, mais surtout, il faut que l'Europe pense qu'elle ne va pas se réindustrialiser dans le seul cadre étroit de ses frontières. Il faut qu'elle réfléchisse à des écosystèmes industriels partagés avec d'autres pays, là où on vient chercher des matériaux critiques, là où on vient chercher aussi de l'énergie dans les pays africains, si c'est de l'énergie qu'on vient chercher, comme les Allemands vont chercher de l'hydrogène vert en Afrique. Il faut que ça soit un véritable écosystème partagé, un écosystème industriel partagé. Et c'est un investissement d'avenir parce que ces pays seront des futurs marchés, seront des futurs alliés politiques si on leur crée des conditions économiques qui sont suffisantes. Et puis c'est aussi ceux qui, si on veut assurer un approvisionnement un peu stable, il ne faut pas juste avoir une logique purement transactionnelle comme Trump l'a à court terme. Et l'exemple que j'ai, c'est que l'Afrique du Sud, qui était extrêmement critique contre l'Europe en disant « vous avez des mesures commerciales unilatérales avec votre mécanisme d'ajustement carbone aux frontières », elle vient de dire avec l'Europe le 13 mars « on a les mêmes valeurs, on va créer les conditions d'un accord, d'un nouveau type d'accord sur le commerce et les investissements pour assurer qu'en fait, on aille ensemble ». Et donc le scénario Trump, il peut enhardir les climato-sceptiques, mais en fait, c'est aussi un scénario qui pousse des gens à se rapprocher parce qu'en fait, ils sont tous la cible de Trump.
Simon Rosé, vous vouliez réagir ?
Oui, je rebondis, et puis je vais dans le sens d'un peu tout ce qui vient d'être dit et votre question du début. Quel rôle ? Qui va prendre la place des États-Unis ? Et l'Europe a toute cette place à faire. Le problème, c'est que certes, il y a des initiatives, c'est encore une fois, un moins mauvais élève. Il y a une échéance très concrète. Vous l'évoquez, Sébastien Treillard, la COP30 qui se tient à Belém, au Brésil. C'est la COP où toute la communauté internationale doit présenter ses nouveaux plans climat. C'est le mécanisme de l'accord de Paris. Tous les 5 ans, les pays doivent présenter les parties à la COP doivent présenter des plans climat plus ambitieux que les précédents. Ça devait être fait en février. Il se compte sur même pas les 10 doigts des deux mains. Actuellement, on attend toujours, l'Europe n'a toujours pas donné le sien. On sait que ça fait des batailles qui sont très compliquées à Strasbourg et à Bruxelles. La Chine, elle a beau jeu d'attendre. On fait rien aujourd'hui, et juste par notre inaction, et le retrait américain passe pour le bon élève. L'Europe doit donner l'exemple pour justement montrer que, d'une, elle assume sa responsabilité historique dans les conséquences du réchauffement climatique. C'est un ensemble de pays développés qui a les moyens de montrer l'exemple. Pour l'instant, on attend.
On attend, et on sait que plus on attend, plus le réchauffement risque d'être intense. Un monde à 4 degrés, à quoi cela pourrait ressembler ? Pour se rappeler l'urgence.
On n'a pas envie de. C'est un monde plus violent dans tous les sens du terme. Météorologiquement, ce sont des événements météo qui sont plus fréquents, plus intenses, plus imprévisibles. Ce sont des vagues de chaleur où ce qu'on appelle le seuil de survivabilité pour l'homme peut être dépassé sur de longues fréquences de temps, c'est-à-dire des températures et des taux d'humidité qui sont tels qu'on ne peut pas survivre dehors. C'est des conséquences agricoles, c'est des crises d'accès à l'eau. C'est pour ça qu'on dit que chaque dixième de degré compte en fait dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque chaque incrément d'un dixième de degré va multiplier d'une façon exponentielle les conséquences. Aujourd'hui, si on fait le point, si on prend ces plans climat que j'évoquais, si on les additionne tous, c'est l'ONU qui a fait ce travail, on arrive à un réchauffement de 2,6 à horizon 2100. Si tous les pays respectaient les promesses qu'ils ont faites à l'heure actuelle. Si on prend en compte juste ce qu'ils font aujourd'hui, on est à 3,1 degrés. L'enjeu de la COP qui va se tenir au Brésil, de la COP30, c'est d'avoir ces nouveaux plans climat et de faire le compte et de voir à quel degré, à quel niveau on arrive. un monde à 2 degrés, même si on arrive à 2 degrés, j'ai pas envie que mes enfants grandissent dedans. C'est clair.
Oui, Christophe Clergeau en ligne avec nous. Un monde à 2 degrés, vous aussi, vous le craignez, j'imagine ?
Bien entendu, et comme on a toutes les données, tous les avis scientifiques, on en connaît les conséquences et elles viennent d'être rappelées. Ce qui me rend optimiste, c'est que finalement, ce qui a été fait au cours des 20 dernières années a été un changement radical de cap pour le monde entier et énormément de dynamiques nouvelles dans le domaine de l'énergie, de l'industrie, des gaz à effet de serre ont été enclenchées avec succès. Mais on sait que c'est une course contre la montre, qu'on ne peut pas se permettre une pause et qu'il faut réenclencher la marche en avant. Moi, mon obsession, c'est qu'on mette en œuvre déjà les objectifs 2030, qu'on soit capable de les atteindre et de les tenir et qu'on le fasse dans la solidarité et que la bataille pour l'écologie ne s'accompagne pas d'un décrochage des catégories populaires vis-à-vis des enjeux de la transition écologique. Donc il faut faire très attention au coût de l'énergie, au coût de l'alimentation, au financement de la rénovation des maisons, au financement de l'accès à la mobilité électrique, aux voitures électriques que j'évoquais tout à l'heure. Il faut créer de l'adhésion autour de cela. Et je me désespère un peu qu'au Parlement européen, on soit matraqué par une extrême droite qui nous dit que les vaccins tuent et que le changement climatique n'existe pas.
J'aurais donné une dernière fois la parole à Sébastien Trieur avant de terminer le débat.
On est distrait par des initiatives législatives qui dérégulent mais qui ne servent à rien, alors qu'on devrait se concentrer ensemble sur les conditions de la réussite de ce qu'on a engagé.
Sébastien Trieur, alors est-ce qu'on a des conditions qui peuvent permettre une réussite ou est-ce que la bataille contre le dérèglement climatique, on est effectivement en train de la perdre ? Qu'est-ce qui vous accroche ? Qu'est-ce qui peut nous donner espoir ?
Alors moi, je ne pense pas qu'on est en train de la perdre. Hein. Je pense que c'est ce qu'on essaye de répondre à la réponse qu'on apporte à votre question initiale qui est justifiée, mais c'est qu'on n'est pas en train de la perdre. Oui. C'est qu'il faut évidemment se battre pour continuer. Moi, ce qui me semble convaincant, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques et de gouvernements et d'autorités locales sur l'ensemble de la planète qui ont un intérêt à aller dans le bon sens. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Le scénario où on n'agit pas, un monde à 4 degrés ou à 2 degrés 6, c'est le scénario le plus injuste à la fois entre les pays et entre les populations dans les pays. Et donc, ça n'empêche pas, comme le dit Christophe Clergeau, qu'il faut aussi qu'on assure les conditions que le projet de transition soit un nouveau contrat social. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il faut qu'on arrive à travailler sur ces conditions sociales de la transition.
Simon Rosé, en quelques mots, vous avez espoir ?
Oui, parce que on a beaucoup parlé de ce que peuvent faire les États, de politique. Dans le monde, il y a de plus en plus de gens qui se bougent, qui font des choses. Pas qu'en Europe, pas qu'aux États-Unis, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Et c'est un mouvement, vraiment, on le voit, bon, on leur parle tous les jours, nous, au service environnement de RFI, qui prend du poids et qui commence à avoir la masse critique qui est pas loin de faire bouger pas mal de choses. C'est quelque chose qui est en train de monter et qui est présent. Il y a des gens qui font.
Et donc, c'est une affaire à suivre en espérant un dénouement heureux. Merci à tous les trois. Sébastien Trieur, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Simon Rosé, chef du service environnement climat de RFI. Et puis Christophe Clergeau, eurodéputé socialiste du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen. Merci aussi à Florence Ponce pour la préparation du débat. Hélène Avril à la réalisation. Dans quelques instants, c'est le grand journal du soir de Christophe Paget, suivi une demi-heure plus tard d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous.
Sylvie, quel sera le programme ?
La RDC avec une polémique et une controverse autour d'un projet de construction d'une prison à Kisangani avec des soupçons de détournement de fonds d'un montant de 20 millions de dollars. Nous parlerons du Mali après la dissolution officielle des partis politiques. L'opposition envisage des recours judiciaires. Hein, la riposte s'organise. Quant aux autorités, elles promettent un processus inclusif. La Libye également dans l'actualité avec l'inquiétude de l'ONU après 3 jours de violents combats dans la capitale Tripoli. La trêve est toujours fragile. Et puis le football, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville reprennent des couleurs hein, puisque la FIFA a levé les sanctions qui pesaient sur ces Diables Rouges et qui leur barraient surtout l'accès aux matchs. Les joueurs ont hâte, vous l'entendrez, de rejouer avec la sélection. Enfin, la famille africaine est devenue le terrain d'un jeu d'influence. C'est ce que nous dira Gaël Lalex à la suite d'une conférence un peu étrange, vous l'entendrez, organisée à Nairobi.
Eh bien, restez à l'écoute de RFI. Merci beaucoup Sylvie Berruet. On vous retrouve à 18h30, temps universel. Et puis dans quelques instants, ce sera donc le grand journal international du soir, présenté par Christophe Paget. Merci d'écouter la radio du Monde.